Delhi, la maison des Rossignols. Première partie, chapitre 1. Transi par l'aigre bise qui soufflait en cet après-midi de mars, les passants hâtaient leur marche, peu soucieux de flânerie. Une pluie mêlée de grésil commençait à tomber. Pour s'en préserver, une fillette qui sortait d'une fruiterie ramena sur ses cheveux blonds le châle couvrant ses épaules et se mit à courir, souple et légère comme un feu follet. En 2 minutes, elle eut atteint une grande maison de rapport, très vieille, sous la voûte de laquelle disparut sa frêle petite personne. Au-delà d'une cour étroite et noire, un autre bâtiment se dressait, haut de 5 étages, noir, lézardé, percé de fenêtres nombreuses. L'enfant s'engagea dans le couloir de ce corps de logis et commença de gravir l'escalier étroit, mi-parti briques et bois. La rampe usée, graisseuse, les murs d'un verre déteint, d'où se détachaient de larges plaques, les relents de cuisine et de lessive, tout annonçait le logis de pauvre. Au 3e étage, une femme qui descendait dit à la fillette au passage « Bonsoir, mademoiselle Liliane, comment va votre maman ces jours-ci »«
Pas très bien toujours, madame Justine. »
Eh, la pauvre dame, c'est le temps qui fait ça, probable. S'il venait un peu de soleil, ça la remonterait tout de suite. » Liliane soupira.
« Je ne sais trop, elle est si, si fatiguée. »
Puis, adressant un amical bonsoir à la femme, une voisine de palier très complaisante, elle continua son ascension jusqu'au 5e, où elle s'arrêta devant une porte qu'elle ouvrit. On entrait directement dans l'étroite cuisine d'une minutieuse propreté. Après cela venait l'unique chambre où Madame de Sourzy avait réuni les quelques épaves de son aisance passée. Un jour terne éclairait cette pièce qui donnait sur la cour, enserrée par des bâtiments de 5 et 6 étages. Près de la fenêtre, Madame de Sourzy cousait. À l'entrée de l'enfant, elle leva son visage émacié, creusé de rides nombreuses.
« Tu n'es pas trop mouillée, ma chérie ?»«
Non, maman, presque pas. J'ai couru et c'est tout près d'ailleurs. Mais il fait bon ici quand on rentre. » Liliane, tout en parlant, retirait le châle qui couvrait d'admirables cheveux blonds dorés. Sa figure délicate apparut, toute rosée par la course et le froid, éclairée par de grands yeux noirs et veloutés, sur lesquels s'allongeait la frange soyeuse des cils bruns. S'approchant de sa mère, la fillette lui mit un bras autour du cou et se pencha pour l'embrasser.
« Il faut laisser maintenant cet ouvrage, maman. Vos pauvres yeux n'en peuvent plus.
Je dois le finir aujourd'hui, mon enfant, pour que tu le portes demain à Madame Bordier.
Je m'en occuperai ce soir, chère maman. Laissez cela, je vous en prie. »
Et Liliane enleva doucement des mains de sa mère la pièce de lingerie presque terminée. Puis, après un nouveau baiser, elle se dirigea vers la cuisine pour préparer le frugal dîner. Madame de Sourzy la suivait des yeux. Un soupir gonfla sa poitrine et, joignant les mains, elle songea en frissonnant «
Ma pauvre petite chérie, si fine, si jolie, quelle existence pour elle! Et qu'allons-nous devenir si Laurence ne répond pas ?»
Tandis que l'enfant allait et venait, la mère, une fois de plus, reportait sa pensée vers les années heureuses, celles de son enfance, celles de sa courte union avec Adrien de Sourzy. Puis les malheurs avaient commencé. La mort de son mari, la vente trop hâtive, dans de mauvaises conditions, d'une propriété jusque-là prospère, des placements défectueux et miettant rapidement la fortune de la veuve. Celle-ci, de nature passive et indolente, n'était pas capable de remonter le courant. De plus, sa santé s'altérait. Un dernier coup lui fut porté quand ce qui lui restait pour vivre sombra dans une catastrophe financière. Brisée par cette suite de malheurs, elle quitta la ville de province où elle vivait depuis son veuvage et vint s'installer à Paris avec Liliane, qui avait alors 10 ans. Une de ses amies, restée fidèle à l'infortunée, lui procura quelques leçons. Mais la pauvre femme tomba malade, dut rester plusieurs mois chez elle et ne retrouva plus ensuite ses élèves qui s'étaient adressés à une autre. D'ailleurs, les forces l'abandonnaient complètement. Maintenant, elle ne sortait presque plus.
Madame Burden, son amie, très gênée elle-même, chargée d'une nombreuse famille, ne pouvait lui venir en aide autrement que par des conseils, des adresses de maison où Liliane allait demander, pour sa mère, quelque ouvrage de couture. La plupart du temps, on les conduisait. Cependant, une entrepreneuse de lingerie avait consenti à lui donner du travail, rétribué de façon infime et qui devait être livré à jour fixe. Madame de Sourzy accepta et maintenant elle usait ses dernières forces pour ajouter ce pauvre gain à la petite rente viagère de quelques centaines de francs qui permettait à la mère et à l'enfant de ne pas mourir de faim. Mais cette rente s'éteignait après elle. Que deviendrait alors Liliane ? C'était pour cette femme qui savait sa santé irrémédiablement atteinte la terrible angoisse de chaque jour. Liliane, l'enfant charmante, dévouée, à l'intelligence vive, au cœur aimant et délicat, l'enfant qui serait dans quelques années une femme si belle, trop belle hélas pour une isolée. Comme parenté, Madame de Sourzy n'avait plus qu'une cousine de son mari, Lady Sandville, plus âgée qu'elle d'une dizaine d'années, veuve d'un riche industriel anglais. Elle ne s'était rencontrée avec elle qu'une seule fois, quelques mois après son mariage, et gardait un souvenir peu sympathique de cette grande femme brune, orgueilleuse de sa fortune, de son rang, considérant de haut ses cousins, qui, bien que dans l'aisance à cette époque, demeuraient néanmoins dans une situation fort inférieure à la sienne. Les rapports s'étaient bornés à l'envoi de lettres de faire-part au moment de la mort de Lord James Stanville et celle d'Adrien de Sourzy. Quand la ruine s'abattit sur elle, Madame de Sourzy songea bien à demander l'aide de Laurence Sandville. Mais, se rappelant cette physionomie dure, elle n'osa pas et se dit « Attendons encore, je pourrais peut-être m'en tirer sans arriver à cette extrémité. » Hélas, il avait bien fallu y venir pourtant. La main tremblante et le cœur en détresse, Madame de Sourzy avait écrit à sa cousine pour lui exposer sa triste situation. Un mois s'était écoulé depuis lors et aucune réponse n'avait été faite à ce cri d'appel. « Ma lettre s'est-elle égarée ?» se demandait la pauvre femme que le désespoir commençait d'envahir. « Dois-je écrire encore ou bien faut-il penser qu'elle ne veut rien faire et dédaigne même de répondre ?»« Elle n'a pas de cœur, mon pauvre Adrien me l'avait bien dit. Il l'avait en vive antipathie et elle non plus ne pouvait le souffrir, paraît-il. » Ce sont là, évidemment, de bien mauvaises conditions pour réussir dans ma démarche. Tandis qu'elle songeait ainsi, douloureusement, le crépuscule s'insinuait dans la chambre déjà sombre en plein jour et si froide car on n'y faisait jamais de feu. Le petit fourneau de la cuisine ne parvenait pas à chauffer cette pièce humide mal close où la bise pénétrait tout à l'aise. Madame de Sourzy frissonna en serrant plus étroitement autour d'elle le vieux manteau dont elle s'enveloppait. Liliane vint étendre une serviette sur la petite table. Puis elle apporta des assiettes, mit le couvert avec des mouvements à la fois vifs et soigneux. Dans l'ombre envahissante, Madame de Sourzy regardait évoluer la frêle silhouette et son cœur se gonflait d'émotion à la pensée du dévouement, du courage, de la pénétration supérieure à son âge dont faisait preuve cet enfant bien-aimé. Dans le silence, un coup sec frappé à la porte retentit et fit un peu sursauter la veuve. Liliane dit, tout en posant vivement sur la table un verre qu'elle tenait à la main, « Je parie que c'est Loulou qui s'amuse à frapper comme cela. Il mériterait que je n'aille pas lui ouvrir. » Sans prendre la peine d'enlever le vieux tablier bleu dont elle avait couvert sa robe pour sa besogne de ménagère, la fillette alla vers la porte. Mais au lieu de Loulou, le fils cadet de Madame Burden, elle se trouva en face d'une grande et forte femme vêtue de noir qui demanda sèchement « Est-ce ici que demeure Madame de Sourzy ?» Liliane balbutia « Mais oui, madame. Je suis Lady Sandville. Dites-lui que je viens lui parler. »« Lady Sandville, entrez, madame, s'il vous plaît. » De sa chambre, Madame de Sourzy avait entendu. Tremblante d'émotion, elle se levait, s'avançait vers la visiteuse qu'introduisait Liliane. « Que c'est bon à vous, ma cousine, de prendre cette peine !» La voix sèche répliqua. « J'aime toujours mieux traiter les affaires de vive voix. » Mais vous êtes logé terriblement haut.
Il est fort heureux que j'ai encore de bonnes jambes. » Une main gantée de laine noire se tendit vers Madame de Sourzy, qui la serra en balbutiant une excuse au sujet de son pauvre logement. « Oui, je vois que vous avez fait du chemin en arrière depuis une dizaine d'années. C'est incompréhensible de se laisser ruiner ainsi, tout à fait incompréhensible. » Le dédain vibrait dans l'accent de Lady Senville. Madame de Sourzy bégaya. « Il y a des malchances. » « La malchance, je n'y crois pas, ma chère. C'est le terme commode dont on enveloppe l'insouciance, l'incurie, la dépense mal entendue. » Liliane s'était éclipsée vers la cuisine pour aller allumer la lampe. De là, elle entendait, et son jeune cœur, fier et sensible, tressaillait d'émotion, de colère, aux paroles dures, humiliantes, qui tombaient sur sa pauvre mère. Quand elle entra dans la chambre, la lampe à la main, les deux femmes étaient assises près de la fenêtre, d'où ne venait plus qu'un crépuscule mourant. Lady Senville, penchant un peu la tête pour regarder l'enfant, demanda « C'est votre fille, Emmeline ?»« Oui, c'est ma petite Liliane, ma consolation. » Tout en continuant d'examiner la fillette des pieds à la tête, Lady Senville interrogea encore « Quel âge a-t-elle ?» 12 ans, ma cousine. 12 ans, on ne le dirait pas. Quelle mauviette! Caroline Bern, la nièce de mon mari, a ce même âge, mais elle est autrement forte que cela. » Madame de Sourzy fit observer timidement. Liliane a bien pâti depuis quelques années. Elle n'a pas une nourriture suffisante, pas assez d'air non plus, dans ce triste logis, et elle travaille beaucoup pour me venir en aide. Mais si elle est restée frêle, sa santé n'est pas mauvaise, car elle n'est jamais malade. C'est fort heureux pour elle, puisqu'elle n'aura pas de rente lui permettant de se dorloter. Mais revenons maintenant au fait, Emmeline, car j'ai peu de temps à moi. Je suis arrivée hier et je repars demain soir. Or, j'ai encore à traiter quelques affaires dont m'a chargé mon fils pour la fabrique. C'est lui qui s'en occupe maintenant ? Oui, depuis la mort de son père. Bien qu'il n'ait que 23 ans, tout marche admirablement sous sa direction. Hugues est une intelligence supérieure, servie par une énergie inflexible. Je prévois qu'avec lui, les affaires connaîtront une prospérité inouïe. » L'orgueil faisait vibrer la voix sèche, animait le dur visage sans beauté, sans charme, les yeux clairs et froids. « Son jugement est remarquable et je ne fais rien sans le consulter. D'ailleurs, il est le chef de la famille maintenant et toute la fortune des Senville lui appartient. C'est donc lui et moi qui avons décidé que nous devions, comme parents, répondre à votre appel en vous offrant de venir chez nous. Dans votre lettre, vous me dites que vous avez 600 francs de rente. Oui, c'est absolument tout. » Une sorte de rictus dédaigneux plissa les lèvres minces de Lady Senville. « Vraiment, vous vous êtes mise dans une jolie situation. Enfin, nous acceptons de vous tendre la perche, puisque vous faites partie de la famille. Vous allez venir à Brinwich et nous prendrons à notre charge vos dépenses de nourriture, celles que nécessitera l'instruction de cette petite, à laquelle il faudra donner un moyen de gagner sa vie. » L'angoisse et l'humiliation serraient le cœur de Madame de Sourzy. Elle avait espéré qu'on lui ferait une petite rente suffisante pour lui permettre de vivre très simplement et d'achever l'éducation de sa fille. Au lieu de cela, on lui offrait, et de quelle façon, une hospitalité qui ne pourrait être qu'un esclavage sous le joug de cette femme orgueilleuse et dure. Et pourtant, il fallait qu'elle acceptât, car, hélas, le choix ne lui était pas laissé. Elle balbutia. « Mais, ma cousine, nous vous dérangerons peut-être beaucoup. » « J'espère que non. La maison est immense, je puis vous loger facilement. Vous prendrez vos repas avec nous et je trouverai à vous occuper. Parlez-vous anglais ?»« Oui, et Liliane aussi. » »« Très bien, mon fils et moi, nous nous servons fréquemment du français entre nous, mais les domestiques l'ignorent en dehors du valet de chambre de Hugues et de ma femme de chambre qui est normande. Eh bien, est-ce convenu ?» Madame de Sourzy, en crispant les mains sur sa vieille jupe, répondit d'une voix tremblante « Je vous suis très reconnaissante. Oui, nous irons à Brinwich et nous nous efforcerons de vous gêner le moins possible. » « Eh bien, entendu, venez dès la semaine prochaine si vous le voulez. vos chambres seront prêtes. Il y a, pas très loin de chez nous, une petite maison où l'enfant recevra une instruction suffisante pour sa position, une instruction pratique surtout. » Elle se levait en parlant. Sa grande taille forte se développa dans l'ample manteau noir de forme disgracieuse, mais chaud et confortable, dont elle était vêtue. Près d'elle, Madame de Sourzy, mince, blonde et si frêle, apparut comme écrasée. « Au revoir, Emmeline. Écrivez-moi si vous avez quelques renseignements à me demander. Mais je ne le pense pas, car j'ai l'habitude de tout prévoir. Tenez, voici les heures du train et du bateau. » Elle sortit de son sac un papier qu'elle tendit à Madame de Sourzy. « Quant à la somme nécessaire pour le voyage, je présume que vous ne l'avez pas. Oh non !» Le regard inquisiteur de Lady Senville fit le tour de la pièce et s'arrêta sur un petit secrétaire en bois de rose. « Vous pouvez vendre ceci qui a de la valeur. » Madame de Sourzy bégaya. « Je l'avais conservé jusqu'ici parce que c'est le dernier souvenir de famille qui me reste et que ma mère y tenait beaucoup. Mais je le vendrai, oui, pour payer ce voyage et quelques dettes. » « Des dettes ? Chez qui ?»« Le pharmacien, le boucher, un terme en retard. »« Total ? Environ 300 francs, je crois. » »« Environ ? Vous ne savez pas cela au juste, si c'est toujours ainsi que vous avez conduit vos affaires, Emmeline. Je ne m'étonne pas de vous voir réduite où vous en êtes. » La pauvre femme courba la tête sous l'ironie méprisante. Lady Senville poursuivit. « 300 francs, ce meuble en vaut bien 800 ou 1000, je crois. Ces choses-là se vendent cher à notre époque. Tâchez de ne pas vous faire voler. Quant au reste, vous en retirerez une somme infime, car c'est de la pacotille. » « Maintenant, je vous dis bonsoir. » Elle sortit après avoir tendu la main à sa cousine qui murmurait un remerciement. Liliane l'accompagna jusque sur le palier, puis dans l'escalier obscur pour l'éclairer. Lady Senville relevait très haut sa jupe et affectait de ne pas frôler le mur ni toucher la rampe. Dans le couloir du rez-de-chaussée, son pied heurta une brique disjointe. Elle grommela « Quel logis ! On peut être reconnaissant aux gens qui viennent vous enlever à cette misère. » Le cœur de Liliane bondissait d'indignation quand l'enfant rentra dans la chambre où Madame de Sourzy, affaissée sur une chaise, attendait dans l'obscurité. « Oh, maman, quelle mauvaise femme ! Est-il possible que nous soyons obligés d'aller vivre chez elle ? Hélas, ma Lily chérie !» Liliane s'agenouilla près de sa mère et prit la main glacée sur laquelle s'appuyèrent ses lèvres. « Petite maman, si j'étais déjà une jeune fille, comme je travaillerais de toutes mes forces plutôt que d'accepter cela ?»« Mais tu n'es encore qu'une enfant, pauvre petite, et moi je suis faible, usée. Il faut accepter l'offre qui nous est faite. Il faut absolument, Lily. » La fillette eut un mouvement de révolte. « Nous devrons alors tout accepter d'elle. Il lui sera permis de vous traiter de cette manière tant qu'elle voudra. Mais je ne pourrai pas supporter cela, maman !» Le regard inquiet et douloureux de la mère enveloppa la délicate physionomie, toute frémissante, où les yeux brillaient de fierté ardente. « Liliane, Liliane, il faudra t'habituer, mon enfant, t'habituer à tout supporter. » « Comprends-le bien, nous serons les parentes pauvres, les parentes dépendantes qui n'ont qu'à courber la tête et à remercier. Ta nature est fière, délicate, Lily. Mais dans notre situation, tu devras la tenir en bride et t'accoutumer, pauvre chérie, à l'humiliation. » Sa main, toute tremblante, caressa les beaux cheveux soyeux. Liliane dit ardemment « Ah, comme je vais aspirer à la fin de mes études pour échapper à cette servitude, pour vivre et vous faire vivre de mon travail !» La mère soupira en songeant. « Pourvu que je lui reste jusque-là, ma petite bien-aimée, que deviendrait-elle si tendre, si sensible, près de cette Laurence au cœur de glace ?» Pendant un moment, toutes deux gardèrent le silence, un lourd silence d'angoisse. Puis Madame de Sourzy murmura, en jetant un coup d'œil vers le secrétaire de Bois de Rose, « Il faudra parler à Madame Burden au sujet de cette vente, Lily.
elle pourra peut-être nous avoir l'adresse d'un antiquaire à peu près consciencieux. Pauvre cher meuble, il m'en coûte de m'en séparer. Cela aurait été si peu de choses pour Laurence de m'épargner ce sacrifice. Oui, si peu de choses, mon Dieu !» Ses doigts maigres se joignirent et elle soupira encore en disant tout bas « Que votre volonté soit faite, Seigneur !» La famille Stainville était d'origine normande. Vers le temps où Henri V régnait sur l'Angleterre, le chevalier Hugues Stainville, ayant épousé la fille d'un négociant anglais, vint s'établir à Brinwich et devint l'associé de son beau-père. Sous la direction de cet homme intelligent, énergique, entreprenant, la fabrique de draps, qui périclitait, reprit un nouvel essor. Les coffres vides s'emplirent de nouveau d'or sonnant et trébuchant, la maison entra dans une phase de prospérité qui, par la suite, devait aboutir à une véritable opulence. Car Hugues Stainville eut des successeurs qui le continuèrent dignement. Presque tous furent de grands travailleurs, durs à eux-mêmes et aux autres, économes, habiles dans leurs affaires, tout en restant d'une probité inattaquable. Certains, à des heures critiques, purent rendre au souverain, à de puissants personnages, des services pécuniaires dont ils furent remerciés par des avantages honorifiques. C'est ainsi que le grand-père de James Stainville, le mari de Lady Laurence, reçut du roi la pairie avec le titre de Lord. Le prestige dont jouissait déjà l'opulente famille à Brinwich et dans tout le comté fut, de ce fait, augmenté considérablement. Mais le nouveau Lord et son fils ne changèrent rien à leurs habitudes de labeur et d'économie. On les vit s'occuper de diriger eux-mêmes la fabrique, ainsi que l'avaient fait la plupart de leurs prédécesseurs, et mener ferme leurs ouvriers, selon une tradition bien établie. Or, Hugues Stainville, le fils de Laurence, paraissait disposé à marcher sur leurs traces, à les surpasser même comme chef d'industrie.